Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Un nouveau rapport soulignant l'impact des interventions antipaludiques sur la santé maternelle et de l'enfant a été lancé récemment par le partenariat Roll Back Malaria en marge des rencontres de haut niveau du Conseil économique et social des Nations Unies à New York. Ce document intitulé « Impact de la lutte contre le paludisme sur la santé mère-enfant » montre les résultats positifs sur la santé grâce au traitement préventif pendant la grossesse et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides longue durée. Tout savoir sur les progrès actuels dans la lutte contre le paludisme avec notre invité, le docteur Eric Mouzin, épidémiologiste à Roll Back Malaria. Docteur Eric Mouzin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici à New York, dans quel but ?
Pour le lancement du dernier rapport de la collection Progrès et Impact du partenariat Roll Back Malaria, qui vise à démontrer l'impact de la lutte contre le paludisme sur les améliorations de la santé de la mère et de l'enfant.
En fait, quels sont les grands axes de ce rapport et comment voyez-vous cet impact positif, négatif ?
Très positif, et c'est ce qu'on a tenu à montrer dans le rapport. Les gens, je crois, sont bien au courant des progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme, à la fois sur la réduction du nombre de cas et de la mortalité, mais peut-être moins du fait que les femmes enceintes et les petits-enfants de moins de 1 an sont particulièrement touchés par le paludisme. Et donc, il est nécessaire de prendre des mesures nécessaires pour la prévention de la maladie dans ce groupe à haut risque. Cibler les femmes enceintes dans les consultations prénatales pour leur offrir des moyens de prévention contre le paludisme, c'est-à-dire essentiellement des moustiquaires imprégnés d'insecticides et un traitement par la sulfadoxine pyrimétamine à prendre pendant 3 ou 4 fois pendant la grossesse.
Est-ce que ça c'est nouveau ou bien c'est des mesures qui ont toujours été prises par Roll Back Malaria ou par tous ceux qui mènent la lutte contre le paludisme ?
Non, vous faites bien de le rappeler, ce sont des mesures qui existent depuis un moment déjà, mais ce qui est nouveau c'est que des campagnes de distribution de moustiquaires ont été effectuées grâce au financement des bailleurs de fonds internationaux, grâce au Fonds mondial en particulier et à l'initiative du président américain contre le paludisme. Donc maintenant, on n'a plus à espérer que les gens accèdent aux moustiquaires. Ils ont accès aux moustiquaires sur le terrain grâce à ces campagnes. Donc dans cette optique, on tient à rappeler que les femmes enceintes représentent un groupe à haut risque et qu'il est nécessaire de les cibler dans les consultations prénatales pour leur permettre d'avoir ces moustiquaires et d'avoir ces traitements. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les consultations prénatales ont de plus en plus de succès. Les femmes en Afrique y vont de plus en plus régulièrement. On a des taux de couverture de 70 à 80%. Par contre, la distribution de moustiquaires et le traitement préventif contre le paludisme, lui, est un peu l'enfant pauvre de ces mesures de consultation prénatale. On a besoin de les renforcer et on a besoin surtout d'intégrer le paludisme dans la consultation prénatale de base un peu partout en Afrique.
Tout à l'heure, on a parlé de progrès, il n'y a pas de succès de la lutte contre le paludisme. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ? Est-ce qu'il y a eu des progrès vraiment remarquables donc récemment dans la lutte contre le paludisme que vous pouvez citer par exemple ?
Oui, je crois que l'impact de la lutte contre le paludisme a été bien démontré. On a pu réduire le nombre de décès particulièrement, de 1 million de cas environ en l'an 2000 à 660 000 aujourd'hui, donc presque une réduction de moitié, parfois de plus de la moitié dans certains pays comme le Rwanda, comme le Sénégal, comme la Tanzanie ou la Zambie, où les mesures sont particulièrement bien mises en place. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a pu chiffrer l'impact en particulier de la lutte contre le paludisme chez la femme enceinte, montrer qu'on pouvait sauver des femmes enceintes et sauver des petits-enfants en particulier. On a pu démontrer que grâce aux mesures de prévention du paludisme, on pouvait réduire la mortalité chez les moins de 1 mois d'une manière très significative, avec une réduction de 18%. Quelle autre mesure simple permet d'obtenir un tel résultat ? Aucune. Donc on a des outils très efficaces pour lutter contre la mortalité des bébés. On a besoin de les mettre en place à beaucoup plus grande échelle. On a besoin de personnel sur le terrain, on a besoin de financement également.
Donc vous avez du personnel sur le terrain qui vous ont permis de pouvoir mesurer l'impact de la lutte contre le paludisme chez les mères et les enfants ?
Oui, ce sont des données des centres de santé. Et puis ce sont aussi des techniques de modélisation, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes au niveau de la population par des méthodes d'échantillonnage qui nous permettent d'avoir une idée parler de l'efficacité à la fois des taux de couverture, mais aussi de l'impact de la lutte sur l'anémie de la femme enceinte et sur la mortalité des bébés et des femmes également.
Alors parlons un peu de la situation et un peu du paludisme dans le monde aujourd'hui. Quels sont les continents, si pas les pays les plus touchés aujourd'hui par le paludisme, et quels sont les pays qui mènent une lutte beaucoup plus efficace contre le paludisme que vous avez constaté?
Le continent le plus touché, c'est indéniablement l'Afrique, puisque plus de 85% des cas se trouvent en Afrique.
C'est toujours l'Afrique, il n'y a pas de changement depuis lors.
Ah non, pas du tout.
Y a-t-il une raison particulière pour ça?
Deux choses. Je pense qu'au point de vue climat et répartition des moustiques, qui est le vecteur responsable de la transmission du paludisme, l'Afrique est particulièrement touchée, peut-être plus que des zones plus tempérées, mais plus essentiellement, parce qu'il faut rappeler que le paludisme touchait aussi l'Europe et l'Amérique du Nord en particulier, jusqu'au milieu du XXe siècle. L'élimination du paludisme dans ces zones-là est en fait assez récente. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les centres de santé ont besoin d'être particulièrement performants pour se débarrasser du paludisme. Donc c'est là où l'Afrique a peut-être un retard par rapport aux autres zones d'Asie et d'Amérique du Sud. C'est là où il faut mettre l'accent en développant les centres de santé et en développant les consultations prénatales en particulier, puisqu'on parle des femmes enceintes. Donc c'est ça qui a besoin d'être fait en Afrique sur les années à venir. C'est ça que s'attachent à faire les partenaires de Rollback Malaria. Et c'est ça qui va amener les succès. Les pays qui ont réalisé des succès aujourd'hui, ce sont les pays qui ont pu mettre en place des programmes à grande échelle et avoir des centres de santé particulièrement performants. Donc c'est le Sénégal, c'est la Zambie, c'est la Tanzanie, c'est le Rwanda, tout un tas de pays qui ont pu permettre à leur population d'avoir accès à des centres de santé équipés et avec du personnel compétent. Il y a aussi une autre zone qui avance très rapidement dans la lutte contre le paludisme, tout en étant un peu moins touché que les zones d'Afrique plus tropicales, c'est l'Afrique australe, puisqu'on a un groupement de 8 pays qu'on appelle les Elimination 8, les 8 pays qui visent l'élimination, menés par l'Afrique du Sud, mais aussi avec le Botswana, la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, qui sont donnés comme objectif d'éliminer le paludisme à l'horizon 2020, qui à mon avis y arriveront.
Alors ces pays bénéficient des aides d'autres pays ou de Rollback Malaria pour cela?
Oui, de donateurs internationaux en particulier, essentiellement le Fonds mondial et USPMI, donc l'initiative du président américain contre le paludisme, mais aussi d'aides bilatérales venant du gouvernement anglais, de DFID et d'autres partenaires comme la Fondation Gates, aussi très active dans la lutte contre le paludisme sur le continent africain.
Alors, pourquoi est-ce que ce rapport est lancé en marge de ces différentes réunions du Conseil économique et social à New York?
D'habitude, on lance nos rapports vers une audience de gens déjà convaincus de l'utilité de la lutte contre le paludisme. On s'est dit cette fois-ci que les interventions de lutte contre le paludisme étaient tellement mises un peu au second rang dans les consultations prénatales et dans les programmes de santé mère-enfant qu'il était important de sensibiliser une communauté plus large aux effets positifs de la lutte contre le paludisme, donc cibler un public qui s'intéresse à l'aide bilatérale, à l'aide multilatérale et au développement en général, pour montrer à quel point le paludisme peut être un outil très efficace dans le développement et dans l'amélioration de la santé mère-enfant, et que c'était pas seulement une affaire de spécialistes de maladies infectieuses ou de spécialistes du paludisme en tant que tel.
Alors, qu'est-ce que vous attendez donc de cette présence de tout ce beau monde aux Nations Unies dans ces réunions de l'ECOSOC pour que vous qui lancez donc le programme, enfin je parle de Rollback Malaria qui lance ce programme, qu'est-ce que votre organisation espère donc de cette rencontre, de l'issue de cette rencontre?
On espère déjà les convaincre de l'utilité de la lutte contre le paludisme au niveau du développement et au niveau de l'amélioration de la santé. Et puis on espère toucher des ministres, des secrétaires généraux de la santé, des gens qui s'occupent d'aide au développement en général, pour les convaincre que la lutte contre le paludisme doit être dans leur portefeuille d'activité. Ils doivent absolument s'attacher à réduire le paludisme dans un pays si ces gens sont sérieux pour le développement d'un pays, le développement économique et non seulement sanitaire. Donc c'est ce qu'on espère montrer, qu'on ne peut pas envisager un développement sain dans un pays si on ne s'attaque pas au paludisme.
rapport, vous évoquez aussi les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Bon, dans quelques centaines de jours, nous serons déjà en 2015. Alors, vous pensez, vous, en tant que rollback malaria, que des miracles pourraient être faits d'ici 2015 dans la lutte contre la malaria, qui est une lutte qui fait partie des objectifs donc, du millénaire pour le développement?
Non, le miracle, je pense, il a en grande partie été réalisé. J'ai rappelé les chiffres de réduction des décès et de réduction des cas. Ça a été véritablement important. On réalise justement, et c'est ce qui nous chagrine un peu au partenariat Rollback Malaria, c'est de voir à quel point, quand les efforts sont accomplis de manière efficace et à grande échelle, à quel point ces efforts portent leurs fruits. Donc on aimerait vraiment, on est frustré de ne pas pouvoir faire plus. On aimerait que tous les pays qui sont touchés par le paludisme puissent offrir aux populations des taux de couverture par ces interventions, des moustiquaires, des tests de diagnostic rapide, des traitements efficaces par les dérivés à base d'artémisinine à plus de 80% de la population. On a réussi à obtenir ces résultats grâce aux financements internationaux et on plafonne aujourd'hui parce que on a à peu près la moitié de l'argent qui est nécessaire pour lutter efficacement contre le paludisme. On a aujourd'hui environ 2 milliards de dollars par an sur le monde et on aurait besoin de au moins deux fois plus, entre 4 et 5 milliards de dollars par an pour pouvoir permettre aux populations d'accéder à ces interventions. Donc on va montrer cette année ou l'année prochaine, quand on va s'intéresser à l'impact du paludisme sur les objectifs millénaires du développement, de chiffrer la contribution du paludisme à ces objectifs, qui est vraiment substantielle, mais qui pourrait l'être beaucoup plus, vraiment beaucoup plus.
On a parlé jusque-là de la lutte contre le paludisme, mais on ne parle pas de recherche, par exemple, pour trouver un vaccin, ce serait beaucoup plus facile, je pense. Donc, je me demande pourquoi Rollback Malaria ne lance pas beaucoup d'activités dans le cadre des recherches plutôt que d'essayer de lutter contre les moustiques, contre le paludisme, parce que trouver un vaccin, c'est une solution, je pense, définitive, une fois pour toutes, contre cette maladie.
Non, beaucoup est fait sur la recherche et le développement. Il y a des
mais vous n'en parlez pas souvent, vous n'en parlez presque pas.
Si, on en parle. Je pense que c'est des sujets qui sont couverts. Je pense que on en parle peut-être pas autant que vous le souhaiteriez parce que aujourd'hui, les vaccins, les candidats vaccins qui sont développés, on pense notamment au RTSS qui est le dernier vaccin en date et le plus prometteur, ne protègent pas à 100%. Ils protégeraient à 50% au mieux les enfants sur une période pas encore bien définie. Donc c'est un outil qui aidera, mais ça ne sera pas la solution définitive au paludisme. Ce qui serait une solution définitive au paludisme, ça serait un vaccin qui protège à 100% et pour longtemps les enfants contre le paludisme. Donc les recherches sont engagées là-dessus, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, on a des mesures efficaces pour lutter contre le paludisme. On pourrait, comme je l'ai dit, se débarrasser du paludisme si les mesures qui existent aujourd'hui étaient développées à grande échelle. C'est ce qui s'est passé dans les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et certains pays d'Asie ou des pays récents comme les Émirats Arabes Unis ou le Maroc qui se sont débarrassés du paludisme avec les outils à notre disposition aujourd'hui. Donc c'est possible, il faut le rappeler, et il ne faut pas craindre de dire on n'a pas encore l'arme efficace à 100%, on n'a pas le vaccin pour éliminer le paludisme. Éliminer le paludisme en Afrique, c'est possible aujourd'hui avec les armes qu'on a. Pour ça qu'on cherche à cibler les ministres et les techniciens qui sont présents au moment de l'ECOSOC à New York, c'est pour les convaincre que plus doit être fait, plus peut être fait et doit être fait pour lutter contre le paludisme.
Dernière question, docteur. On en a beaucoup parlé de ce rapport et des efforts que vous fournissez pour lutter contre donc le paludisme. Parlons maintenant de Rollback Malaria. En fait, c'est quoi Rollback Malaria? Est-ce une nouvelle institution ou juste un nouveau programme de l'OMS?
Non, ce n'est pas un programme de l'OMS. Rollback Malaria est né en 1998 à l'initiative de la directrice générale de l'OMS, Gro Brundtland, de l'époque, mais poussé par de nombreux ministres africains qui lui avaient dit, lors d'une de ses tournées en Afrique, que l'OMS faisait beaucoup de choses sur beaucoup de maladies, mais que sur le paludisme, les efforts restaient encore très timides. Donc c'est une initiative qui est née dans les pays africains à la demande des pays d'Afrique pour augmenter la puissance de la lutte contre le paludisme. Et Rollback Malaria aujourd'hui, c'est pas un programme de l'OMS, c'est un partenariat qui regroupe 500 partenaires. Il y a des organisations multilatérales comme l'OMS, comme l'UNICEF, comme l'UNDP, comme la Banque mondiale. Mais il y a aussi beaucoup d'organismes de recherche. Il y a des partenaires du secteur privé. Il y a des ONG du Nord, des ONG du Sud. Il y a des fondations comme la Fondation Gates. Et tous ces gens-là sont regroupés au sein du partenariat Rollback Malaria pour harmoniser leur action et coordonner leur action de façon à ce qu'il n'y ait pas de redondance ou de duplication des efforts.
Merci beaucoup, docteur Eric Mouzin, vous qui êtes épidémiologiste et qui travaillez donc au rollback malaria. C'est sous cette note que s'achève Escale consacrée au rapport du partenariat Rollback Malaria concernant l'impact de la lutte contre le paludisme sur la santé mère-enfant. Avec notre invité, le docteur Eric Mouzin, épidémiologiste à Rollback Malaria. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Florence Westergaard. Merci de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.